これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Pierre Mine.
Et à la réalisation, François Connac. Si l'histoire était une science exacte, agir serait inutile. Si l'esprit gouvernait le corps, il suffirait de connaître le solfège pour devenir Mozart. Si l'avenir était une science exacte, la prudence serait une superstition. Seulement voilà, c'est ici-bas que nous vivons, dans un monde mêlé de matière et soumis au hasard. Et il faut un guide à ce chaos, un bel exemple qui invite à transformer le hasard en destin. Ce guide, c'est Aristote, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Aristote, dont le géocentrisme vaguement obsolète débouche néanmoins sur l'anthropologie la plus pertinente qui soit. Preuve supplémentaire s'il en est que si, contrairement à l'astronomie, la philosophie ne fait pas de progrès, c'est qu'en un sens, peut-être, elle a déjà tout compris.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Si vous cherchez la route la plus courte vers la vertu, alors passez votre chemin. Mais si vous êtes de ces voyageurs flâneurs que la route intéresse autant que la destination, alors ouvrez l'éthique à Nicomaque, car Aristote ne nous délivre pas la recette qui ferait de nous le parangon de la prudence. Et l'éthique à Nicomaque n'est pas un manuel ou un guide de bonne tenue, mais un ouvroir, mais une source. La prudence, nous apprend Aristote, n'est en aucun cas un pis-aller de la sagesse. Ce n'est pas non plus une sagesse provisoire, c'est une manière d'être au monde qui s'accommode de son inachèvement.
Sagesse provisoire, avoir, et puis aller aussi d'ailleurs, on verra. Écoutons Aristote.
Une façon dont nous pourrions appréhender la nature de la prudence, c'est de considérer quelles sont les personnes que nous appelons prudentes. De l'avis général, le propre d'un homme prudent, c'est d'être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même. Non pas sur un point partiel, comme par exemple quelles sortes de choses sont favorables à la santé ou à la vigueur du corps, mais d'une façon générale, quelles sortes de choses, par exemple, conduisent à la vie heureuse. Une preuve, c'est que nous appelons aussi prudents ceux qui le sont en un domaine déterminé quand ils calculent avec justesse en vue d'atteindre une fin particulière digne de prix dans des espèces où il n'est pas question d'art. Il en résulte que, en un sens général aussi, sera un homme prudent celui qui est capable de délibération.
On est loin de la... Enfin, peut-être allez-vous me contredire, Raphaël, je ne sais pas. Mais on est loin de la méthode platonicienne qu'on a rencontrée à chaque fois qu'on a fait des émissions sur les dialogues de Platon où on commence par rechercher l'essence de la chose en question avant de montrer les exemples de qui possède cette vertu. Là, c'est l'homme prudent qui définit la prudence.
On est aux antipodes de la méthode platonicienne, enfin, de la méthode que Platon revendique sans la mettre en œuvre. Parce que dans les dialogues de Platon, il y a une contradiction entre l'intention des dialogues et la façon dont ils sont construits. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours au milieu du dialogue que Socrate dit « attention, 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 on est mal parti ». On est mal parti parce qu'on a commencé à parler de quelque chose avant de l'avoir défini. Or, c'est de mauvaises méthodes. Il faut donc s'essayer à un travail de définition pour ensuite parler correctement de ce dont nous parlons. Il le fait avec la justice, il le fait avec la vertu, il le fait avec la beauté. Il le fait avec toute une série de vérités absolues ou de vérités qu'on voudrait absolues. Mais la méthode qu'il met en œuvre n'est pas celle qu'il vante, n'est pas celle qu'il défend. Et Aristote, de ce point de vue, est plus cohérent que Platon, qui défend la méthode qu'il met en œuvre. C'est-à-dire qu'il considère que la prudence, alors, puisque c'est d'elle qu'il s'agit en tout cas, donc c'est en ce qui concerne la prudence qu'Aristote ici se distingue ouvertement de Platon, il considère que la prudence n'est pas séparable de l'homme prudent. Qu'il n'y a pas tant de normes absolues à la prudence, et pour cause, on verra pourquoi, que d'exemples qui permettent de l'illustrer et qui nous apparaissent comme évidemment des exemples de prudence. De la même façon que la beauté nous apparaît dans son évidence, sans être corrélée, sans avoir pour cela besoin d'être corrélée à une définition de la beauté. C'est-à-dire que quiconque est saisi par le spectacle de la beauté ne fait pas un travail hypothético-déductif où il viendrait vérifier que tel ou tel spectacle rentre dans les canons d'une beauté préétablie ou prédéfinie. Eh bien, de la même façon, la prudence n'est pas séparable de l'exercice de la prudence. Or, ça, c'est une position contre laquelle Platon s'insurge régulièrement. Quand Hippias dit à Socrate « la beauté, c'est une belle vierge », Socrate lui dit « mais pas du tout, il faut travailler la beauté séparément de celui ou de celle qu'il incarne ». Quand Ménon dit « la vertu, c'est de savoir bien gouverner aux hommes », Socrate lui dit « mais pas du tout, parce que tu me donnes tout un essaim de vertu, parce que tu diffractes la vertu en exemple, tu la disperses en exemple au lieu d'essayer de la saisir elle-même ». Oui.
Alors, est-ce qu'on pourrait s'en tenir là pour Aristote et dire la prudence c'est Périclès ? Et puis on s'arrête là ?
Alors, c'est pas que lui, même si Périclès est l'un des modèles de la prudence chez Aristote, c'est l'un de ses exemples favoris, voilà. C'est un des exemples qu'il préfère. Mais en vérité, pour comprendre la spécificité, la singularité et je crois la grandeur de la théorie de la prudence chez Aristote, théorie, je ne sais pas si on peut parler d'une théorie justement. On est au livre 6 de l'Éthique à Nicomaque. Et la grandeur de cette théorie, la splendeur de cette théorie vient du fait qu'elle ne se sépare jamais de son incarnation. Et surtout que c'est une théorie qui fait l'éloge de la médiété, qui fait l'éloge du juste milieu, qui fait l'éloge du moyen terme. Ce faisant, et c'est important de trouver grande cette théorie, parce que c'est une phrase de Camus que je cite de mémoire, « Il faudra faire litière, dit Camus, d'un des préjugés de l'époque qui voudrait qu'une sagesse sans démesure soit une sagesse sans grandeur. » La pensée aristotélicienne de la prudence est très exactement une pensée sans démesure, et c'est là que se trouve toute sa grandeur. C'est-à-dire à tous ceux qui sont dupes du contenu d'une pensée, qui évaluent la grandeur d'une pensée ou l'ampleur d'une pensée, à l'ambition des propositions qu'elle formule, qui bien souvent d'ailleurs culminent dans l'inaction, l'inefficacité ou la déploration du monde comme il est, tous ceux qui évaluent la grandeur d'une proposition à l'ampleur des ambitions qu'elle contient ou qu'elle énonce, gagneraient à fréquenter ce qu'Aristote dit de la prudence, c'est-à-dire à s'intéresser à ce monde des valeurs non pas éminentes, mais moyennes, à ce monde mêlé de hasard dans lequel nous sommes condamnés à vivre et où, par là même, il nous faut, faute d'un savoir absolu, faire preuve de prudence.
Mais est-ce que tout ce que vous dites là, Raphaël, n'est pas contradictoire avec, en tout cas, ce que dit Aristote de l'homme et de la prudence à appliquer dans ce monde humain, n'est pas contradictoire avec la théorie, avec la cosmologie qu'il met en place ?
Alors, non. C'est-à-dire que la cosmologie, puisque vous m'emmenez sur ce terrain-là, la cosmologie aristotélicienne, c'est celle de son époque. C'est-à-dire, bon, on est dans un monde géocentrique, bon, très bien, d'accord, la Terre est au centre de l'univers. Cet univers géocentrique est composé de cercles concentriques. Et l'une des délimitations, et la plus importante, c'est celle que délimite l'orbite lunaire autour de la Terre. Bien. Pour le dire très, très simplement, vous avez le monde sublunaire, le nôtre, où nous évoluons, où nous faisons, vous, moi, Pierre Mine, notre technicien, François Connac, Alice Ramon et tout le monde, où nous faisons ce que nous pouvons dans l'inconnu, où on, comme dirait Cioran, on bricole dans l'incurable ou bien dans l'éphémère, si vous voulez. Donc c'est ce monde-là, c'est le monde sublunaire, ce monde mêlé de matière et de hasard. Et au-delà, il y a le monde supralunaire, dont la linéarité des trajectoires astrales invite à concevoir cette fois-ci la vérité selon un mode absolu, et le savoir selon un mode absolu. Alors, sous l'orbite lunaire, le savoir ne peut pas être absolu. L'avenir nous échappe, dans une certaine mesure, dans une mesure qui détermine d'ailleurs une partie de notre liberté. Mais surtout dans ce monde-là, l'avenir nous échappe et le savoir n'est en aucun cas de nature à gouverner nos comportements. Et ce faisant, Aristote, sur la base d'une cosmologie tout à fait obsolète, caduque, qui n'a rien à voir avec la réalité de l'organisation des astres, fonde une anthropologie qui, loin de l'être, fournit à l'inverse peut-être la meilleure représentation de l'homme. C'est ça qui est fou chez Aristote, c'est ça qui est remarquable. C'est qu'il forge une anthropologie absolument pertinente, ce que je disais tout à l'heure, à la lumière, à la faveur d'une cosmologie qui, elle, n'a rien à voir avec la réalité. La cosmologie aristotélicienne lui permet de penser que le plus fataliste, le plus déterministe des hommes regarde quand même si une voiture arrive avant de traverser la rue, c'est-à-dire se conduit prudemment. C'est la cosmologie aristotélicienne qui lui permet de comprendre le fait que, c'est un exemple de Leibniz, le meilleur mathématicien se rende à l'opinion du cocher qui, n'écoutant lui-même que son cheval, refuse d'emprunter le chemin à flanc de falaise dont tous les calculs montrent pourtant qu'il n'est pas dangereux. Pour le dire très simplement, c'est la cosmologie aristotélicienne qui lui permet de penser qu'ici-bas, notre sagesse est parcellaire, provisoire et éventuellement intuitive ou instinctive. C'est cette cosmologie qui le fait penser que ici-bas, c'est-à-dire sous l'orbite lunaire, la vérité n'est pas utile et que les hommes savent d'instinct qu'il ne suffit pas de tout savoir pour ne jamais se tromper. La prudence, l'idée aristotélicienne de prudence lui vient, c'est-à-dire le sentiment que l'homme est inséparable d'un certain type de situation et que les dieux n'ont aucune des vertus humaines. Bref, que la vertu humaine est un horizon, c'est-à-dire qu'elle est horizontale et qu'elle ne se déploie pas en référence à des valeurs absolues mais à une pratique, à l'immanence d'une pratique concrète. Ces idées-là, ces intuitions-là viennent à Aristote de sa représentation du cosmos, de la centralité de la Terre et de cette division en Terre sublunaire et en espace supralunaire.
Il faut revenir sur ce mot de prudence, parce que la façon dont l'entend Aristote n'est peut-être pas la façon dont nous avons coutume de l'entendre, et depuis longtemps, par exemple, quand on pense à l'art de la prudence, de Balthazar Gracian, où on entend que le silence est le sanctuaire de la prudence, qu'il vaut mieux se retenir d'agir plutôt que d'agir de façon trop rapide, etc. On a coutume de voir dans la prudence une idée de tempérance, de rétention, de vaut mieux pas que j'agisse là au risque de me tromper. Alors que c'est pas du tout ce que dit Aristote, la prudence dans, enfin en tout cas tel que je l'ai compris, et je le signale quand même, j'ai pas forcément lu tout dans le texte d'Aristote lui-même, mais je me suis aidée de l'essai que Pierre Aubinck consacre à la prudence chez Aristote.
La prudence chez Aristote, qui est un essai absolument remarquable, oui, absolument remarquable.
Et c'est là qu'on comprend, enfin c'est là que j'ai vraiment compris que la prudence c'était un agir, c'était l'art de faire.
Alors non seulement la prudence est un agir, mais surtout, en réalité, il me semble que la prudence est un courage. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'être prudent pour Aristote ? On va entrer dans le détail de ce qu'il en dit. Mais qu'est-ce que c'est qu'être prudent ? Pour le dire très vite, agir comme on le peut dans le monde qui nous est donné. Aristote définit la prudence comme une disposition pratique accompagnée de règles vraies concernant ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'homme. Avant d'entrer dans le détail de cette définition, retenons ceci. Les affaires humaines ne relèvent pas de la raison pure. Les affaires humaines sont trop hasardeuses, sont trop matérielles, sont trop souillées par la matière et le hasard pour relever de la raison pure. On ne lit pas le monde à la faveur d'une grille binaire, en bien et mal, en blanc et noir. Le paradoxe, c'est que c'est à la faveur d'une grille binaire entre supralunaire et sublunaire qu'Aristote introduit justement la grille complexe et toute relative de la prudence. Mais là où je parle de la prudence comme d'un courage, c'est que qu'est-ce que c'est qu'être prudent ? Être prudent, c'est accepter que le fait d'être sur Terre impose d'agir sans savoir véritablement pourquoi nous agissons ni où nous allons en agissant. Le fait d'être sur Terre nous impose de naviguer à vue. Et il faut beaucoup de courage pour assumer cela. Il faut plus de courage pour accepter de naviguer à vue et de trouver à chaque instant la norme immanente de son action, de recréer en permanence des normes à la façon dont fonctionne par exemple la jurisprudence. Il faut beaucoup de courage pour assumer cela et en retour, et à l'inverse, beaucoup de lâcheté pour s'abriter derrière des valeurs absolues dont on considère qu'elles peinent à s'incarner dans ce monde à cause de l'homme lui-même, par exemple. Là est l'une des différences d'ailleurs entre Aristote et Socrate, même si Socrate fait grand cas de ce qu'il appelle l'opinion vraie, mais ce n'est pas le sujet ici. Non, la prudence qui se meut dans le domaine du contingent, dans le monde hasardeux, qui est le propre, qui est notre lot, puisque à nous qui vivons sous l'orbite lunaire, la prudence est une façon de vivre séparément des valeurs absolues. Or, ça n'est pas la faute de l'homme lui-même si nous sommes obligés de naviguer à vue. C'est notre condition qui nous l'impose, c'est notre condition terrestre, c'est notre condition humaine. Ce n'est pas la faute de quelqu'un en particulier, c'est notre condition humaine et c'est, je veux dire, on n'arrête pas de dire que toutes les valeurs se perdent, que tout ça est perdu, que c'était mieux avant. Toutes les époques du monde, ceux d'entre nous, ceux d'entre nos auditeurs qui pensent que tout s'est perdu aujourd'hui, doivent être attentifs au fait que toutes les époques du monde ont fourni des gens pour penser que tout s'était perdu. Qu'un des lieux communs de toutes les époques, c'est le sentiment que c'était mieux avant. Donc on demande en permanence d'avoir des valeurs. Qui est en fait, si l'on s'en tient au fond à la lecture aristotélicienne de la prudence, cette lecture-là permet de faire la généalogie en termes de lâcheté, de ce désir même d'avoir des valeurs absolues qui nous guident, qui dictent notre action. Qu'est-ce que ça veut dire, ce désir de valeur ? Ce désir de valeur, c'est l'expression bien humaine, trop humaine, du désir que nous avons de nous affranchir d'un monde mêlé de matière. Et autrement dit, ce que la prudence consacre en l'homme, c'est le courage de vivre séparément du désir que nous avons de voir notre action dictée par autre chose que nous-mêmes, par l'hétéronomie de lois absolues qui viendraient régenter définitivement nos comportements et couper court au débat auquel nous sommes contraints de nous livrer dans le temps de la vie et, encore une fois, sous l'orbite lunaire.
Et c'est là qu'on peut voir et qu'on peut se distinguer un petit peu de ce que dit Pierre Aubin sur la philosophie d'Aristote et de la prudence, et de voir qu'en fait, c'est pas une philosophie tragique. Il regrette pas, on ne sent pas dans Aristote qu'il regrette qu'on n'ait pas une science absolue et qu'on doive ménager, bricoler, vous disiez, avec la contingence. Parce que le dernier chapitre de Aubin, je dis ça parce que c'est la source tragique, c'est ainsi qu'il intitule son dernier chapitre.
Moi, je souscrirais à l'adjectif tragique. Peut-être pas au sens d'ailleurs que Aubin lui donne, mais au sens où tragique ne désigne pas ici l'imposition d'une volonté absolue, genre providentielle, à laquelle il faudrait soumettre, façon de Phèdre. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. La tragédie est dans le fait que Phèdre n'a pas le choix. Elle doit se soumettre aux injonctions de Vénus qui lui impose de tomber amoureuse de son beau-fils. Bon, donc la tragédie est là. On peut entendre tragique au sens d'un inévitable qui s'incarne, qui vient s'incarner. Mais on peut également entendre tragique au sens de quelque chose d'irréconciliable et tragique, ce qui est insoluble. Pourquoi parler par exemple d'une tragédie israélo-palestinienne ? Parce que c'est un problème insoluble. Parce qu'en un sens, nous n'en sortirons jamais. C'est en cela qu'on peut parler de tragédie. Parler de tragédie, c'est renoncer à résoudre un problème, au fond. C'est renoncer à le résoudre, soit en le dépassant dans une activité synthétique où l'esprit absolu trouverait à s'incarner, soit en trouvant tout simplement une solution. Non, les solutions que nous trouvons aux problèmes qui se posent ici-bas sont fatalement des solutions provisoires. Et c'est en cela, je crois, qu'on peut parler de tragédie. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que la condition humaine ? C'est une condition qui impose, à chaque fois qu'un humain apparaît, au fond, de remettre sur l'ouvrage son métier et de reconquérir à grands frais l'expérience qui nous permet d'agir à vue sans prendre un mur ou bien un récif, de naviguer à vue sans prendre un récif ou d'agir à vue sans se prendre un mur. Bref, nous sommes obligés de constamment remettre cette entreprise à l'œuvre à chaque fois qu'un humain apparaît. C'est là qu'il y a de la tragédie. Et c'est en cela, d'ailleurs, que la philosophie elle-même est une discipline tragique. Parce que c'est une discipline qui, les questions qu'elle prend en charge, n'étant jamais résolues, sont réactivées par chaque nouveau lecteur qui est conduit à la philosophie par la perplexité dans laquelle sa propre condition lui impose de se trouver.
Alors, revenons-en à l'idée de prudence, parce que je ne suis pas sûre que ça soit vraiment clair. On n'a pas encore vraiment défini ce que c'était que la prudence, comme l'entend Aristote. Mais j'ai quand même un truc sur lequel je voudrais revenir, Raphaël, c'est que quand j'ai dit mon introduction en tout début d'émission, je disais que la sagesse, en tout cas la façon dont je l'avais... La prudence, pardon, c'était pas la sagesse, et que c'était pas un pis-aller de la sagesse, c'était pas à défaut d'avoir la sagesse, on a la prudence. Et vous m'avez dit, vous avez fait une moue un peu du genre... Quoique, on y reviendra. Bah, peut-être c'est le moment. Pourquoi est-ce que Est-ce que j'étais approximativement...
Parce que la sagesse est un courage, parce que le courage est une sagesse, et que c'est une sagesse... Si vous voulez, la prudence aristotélicienne est une sagesse qui appartient à ces sagesses que l'on conquiert en renonçant à la sagesse, c'est-à-dire à la sagesse absolue.
Oui, ben c'est ce que je voulais dire. C'est pas un pis-aller de la sagesse absolue, dans le sens où l'entend la Sophia comme ce qui a rapport au nécessaire et la prudence au contingent.
Absolument, absolument. Alors, c'est autre chose, mais c'est une sagesse. C'est une sagesse. C'est la sagesse de renoncer, pour la norme de mon action, à ce qu'on peut entendre par sagesse, c'est-à-dire cette disposition de l'intelligence qui s'occupe des faits ou des choses éternelles et nécessaires. Non, la prudence se porte sur le contingent. Vous savez ce que c'est la prudence, Paola ? C'est le rebond du ballon de rugby. On est obligé... Enfin, c'est le rebond... On est obligé de tenir compte d'un rebond aléatoire. Alors, en fait, pour Aristote, notre monde est irréductiblement contingent. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose en nous, enfin en nous, ici-bas, d'irréductiblement contingent. La contingence de ce monde n'est pas soluble dans la conquête d'un savoir absolu. Voilà la grande leçon d'Aristote, dont les conséquences sont énormes, considérables. J'en reviens à l'idée du rugby. Le ballon de rugby, la forme du ballon, et il faut ici penser à la forme de notre monde au fond, la forme du ballon, l'ovale du ballon, fait que le rebond du ballon est aléatoire, et ce, définitivement. Il est définitivement aléatoire. Alors, en droit, c'est ça qui est fort, si vous voulez, c'est que en droit, un esprit absolu, un mathématicien de génie, qui serait également un trois quarts, pourrait prédire le rebond d'un ballon, conjurer cet aléatoire-là. Mais c'est aussi probable que de réduire l'Everest en poussière avec un mouchoir de flanelle, si vous voulez. C'est tellement improbable, c'est tellement impossible que cette possibilité en droit de prédire le rebond du ballon et donc de conjurer l'aléatoire est dissipée par la pratique du rugby qui fait que voilà, qui consacre l'impossibilité du savoir absolu du rebond. On est obligé de tenir compte de cet aléatoire et on ne peut pas faire, si vous voulez. C'est tellement difficile de prédire la trajectoire d'un ballon qu'au fond, il faudrait éviter, du point de vue d'Aristote, le sentiment qu'on peut tout connaître et qu'au fond, le hasard, comme dit Spinoza, n'est que la mesure de notre ignorance. Non, Aristote fait valoir la non-pertinence du savoir absolu dans un monde qui ne s'y prête pas ou qui s'y prête si peu dans les faits qu'on peut douter qu'il s'y prête en droit. Bref, Spinoza ne serait pas d'accord, voilà.
D'accord, d'accord, mais...
Et pourtant, c'est le même homme qui dit « sois prudent » comme devise, chaoté. Mais ça, c'est une autre histoire.
Vous semblez faire, Raphaël, avec ces exemples du ballon de rugby, etc., presque du coup de dé, en fait, de la prudence, un dévouement à l'aléatoire, au contingent. Mais tout de même, c'est une vertu intellectuelle. Il s'agit d'essayer de prendre la bonne décision. Il y a une part de délibération dans la prudence. C'est pas seulement de l'intuition et puis hop, j'y vais et on verra.
Absolument, c'est une part de délibération, c'est un usage de la rationalité. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que pour Aristote, ce qu'il appelle l'objet de l'action comme l'objet de la production appartient au domaine de ce qui peut être autrement. On agit sur ce qui pourrait être différent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'action immanente, ici-bas, la praxis, a moins pour objet la nature que les défaillances ou l'inachèvement de la nature. Dans un monde parfaitement transparent à la science, Paola. Dans un monde complètement transparent, c'est-à-dire où il serait établi que rien ne peut être autrement qu'il n'est. Il n'y aurait aucune place pour l'art, ni, d'une façon générale, pour l'action humaine. L'homme d'Aristote, l'homme aristotélicien, s'insinue dans les lacunes de la nature. La science n'explique pas tout. Il existe un hasard fondamentale qui impose au fond à l'homme, pour finir d'ordonner le monde, de prendre la relève d'une providence défaillante. La prudence, on va voir comment elle fonctionne, mais la prudence, c'est une philosophie seconde, amoureuse du réel, de ses contraintes, de son obscurité, et qui, in fine, se donne comme l'unique règle de conduite à laquelle les mortels puissent se fier. Rien ne ressemble plus à la prudence d'Aristote que la morale par provision chère à Descartes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dis ça, Paola ? Vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs.
Oui, non, parce que la morale par provision, en substance, de la façon dont je m'en souviens, c'est si t'es perdu en forêt, marche tout droit, et puis cesse d'hésiter, et puisque tu sais pas, applique ce principe-là.
Ça, c'est une des maximes de la morale provisoire. Il y a aussi changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, respecter les mœurs du lieu où on se trouve. Bref, toute une série de conseils que Descartes donne. D'ailleurs, il faudra qu'on l'examine, la morale provisoire. Hein. On fera ça dans le Gai Savoir, c'est intéressant, dans le discours de la méthode. On n'en a jamais parlé du discours de la méthode. Ce sont tous les conseils que Descartes se donne à lui-même dans l'attente de découvrir la vérité. C'est-à-dire dans l'attente de découvrir une vérité qui lui permettrait de fonder ensuite une morale, cette fois-ci non pas provisoire, mais définitive. Or, évidemment, nos vies étant provisoires, la vérité qu'il s'attend à découvrir est hors d'atteinte. Et ainsi, la morale provisoire que forge Descartes est une morale pour le temps de la vie. C'est une morale qui renseigne sur le fait, alors typiquement aristotélicien, qu'à la différence des valeurs immuables, la prudence se montre mais ne s'enseigne pas, et comme elle ne cherche pas dans l'absolu la règle de la vertu, elle n'est transmissible que par l'exemple d'une vie, et surtout que la prudence, on n'en sort jamais. De la même manière qu'on ne se défait jamais de la morale provisoire, on n'en sort jamais, on n'en sort qu'en sortant de la vie, on en sort, ou alors on en sort, je veux dire, Aristote, et c'est là que sa cosmologie ne fonctionne pas, l'homme continuera d'avoir à être prudent et ça continuera d'être sa condition le jour où il posera un pied sur Mars, c'est-à-dire le jour où il dépassera justement l'orbite lunaire. Ça ne changera rien. Ça ne change rien au problème. Ça ne change, comme il ne change rien au problème de savoir si nous sommes seuls ou non dans l'univers. Ça ne change rien au problème. Le problème, c'est la différence de nature qu'il y a entre le monde de l'éternité et de la nécessité et le monde du hasard dans lequel il faut bien se mouvoir, se déplacer. Donc, c'est cette sagesse immanente qui fait que, au fond, tout homme peut se contenter de souscrire à des vérités absolues ou des impératifs catégoriques qui n'engagent à rien. Mais peu d'hommes savent s'en tenir à la prudence des prudents, c'est-à-dire à l'audace d'abjurer les valeurs absolues au nom de l'évidence que les affaires humaines, elles sont immanentes et qu'il faut chercher, on ne peut pas chercher ailleurs qu'en soi-même, à tout instant, c'est-à-dire à l'instant présent, les principes ou les normes de son action. C'est là qu'il faut du courage pour être prudent. Être prudent, c'est assumer la condition dans laquelle nous nous trouvons, qui nous impose de chercher ici-bas, tout de suite et maintenant, à partir de ce hasard fondamental dont notre lieu d'habitat et lester les normes de notre action. Vous êtes sur France Culture et le Gai Savoir aujourd'hui vous parle de prudence selon Aristote. La prudence, cette étrange, paradoxale forme du courage.
C'est pourquoi nous estimons que Périclès et les gens comme lui sont des gens prudents en ce qu'ils possèdent la faculté d'apercevoir ce qui est bon pour eux-mêmes et ce qui est bon pour l'homme en général. Et telles sont aussi, pensons-nous, les personnes qui s'entendent à l'administration d'une maison ou d'une cité. De là vient aussi le nom par lequel nous désignons la tempérance, pour signifier qu'elle conserve la prudence, et ce qu'elle conserve, c'est le jugement dont nous indiquons la nature. Car le plaisir et la douleur ne détruisent pas et ne faussent pas tout jugement, quel qu'il soit. Par exemple, le jugement que le triangle a ou n'a pas ses angles égaux à deux droits, mais seulement les jugements ayant trait à l'action. En effet, les principes de nos actions consistent dans la fin à laquelle tendent nos actes. Mais à l'homme corrompu par l'attrait du plaisir ou la crainte de la douleur, le principe n'apparaît pas immédiatement et il est incapable de voir en vue de quelle fin et pour quel motif il doit choisir et accomplir tout ce qu'il fait, car le vice est destructif du principe. Par conséquent, la prudence est nécessairement une disposition accompagnée d'une règle exacte, capable d'agir dans la sphère des biens humains.
Je citais Périclès tout à l'heure, c'était en partie à ce texte que je faisais référence, et on voit d'ailleurs dans ce texte à quel point la prudence est une vertu politique, mais aussi
Et surtout, pardon de vous interrompre, Paola, à quel point la sagesse n'est pas un art politique. La sagesse au sens où elle porte sur ce qu'il y a d'éternel et de nécessaire. La sagesse n'est pas un art politique. De ce point de vue, je brûle les étapes, mais quand même, Aristote délivre, dans l'Antiquité, l'antidote à la tentation de régenter les activités humaines comme on pourrait régenter, régenter, ça veut rien dire, mais les phénomènes de la nature, ou bien les lois de la nature, ou bien les vérités de la mathématique. C'est-à-dire régenter les activités humaines comme on pourrait penser les lois de la mathématique, en d'autres termes, d'appliquer à la matière molle de l'histoire des hommes les vérités dures des sciences incontestables. On appelle ça le marxisme, en l'occurrence. On appelle ça le marxisme, qui est parfaitement compatible avec une grande maîtrise de la science. Vous avez comme ça, par exemple, d'extraordinaires scientifiques qui sont politiquement des marxistes obtus. Alors, pourquoi ça ? Comment ça se passe, ça ? Certains s'émerveillent, d'ailleurs, ou s'étonnent du fait qu'un individu capable d'envoyer un homme sur la Lune ou de déposer un satellite ou une sonde sur une comète pense également la lutte des classes est une vérité absolue et que le dépérissement de l'État est une nécessité intégrale. On peut s'étonner de cette cohabitation dans le même individu, d'une telle clairvoyance, d'un tel savoir, d'une telle puissance et d'une telle méconnaissance sens de la nature humaine. Or, en réalité, c'est l'une des choses qu'Aristote enseigne, cette erreur-là vient d'une confusion coupable entre ce qui relève de la science dure et ce qui relève de la science molle. Aristote fonde ni plus ni moins que les sciences humaines ici. Il donne le jour aux sciences humaines, c'est-à-dire aux sciences qui revendiquent leur ascientificité, au fond, ou leur incapacité à gérer absolument ou à régler absolument les problèmes de l'homme. L'enjeu étant l'adverbe « absolument ». On peut régler les problèmes humains, mais on ne peut pas les régler une fois pour toutes. Et pour croire qu'on peut le faire, c'est confondre la matière humaine indécise, hasardeuse, irrationnelle avec ce qui relève de l'éternité et de la nécessité. Aristote est un antidote au scientisme comme à la tentation proprement tyrannique de traiter les hommes comme s'il était question de lois absolues.
Oui, ça complique tout. Comment devient-on prudent s'il faut être prudent à l'origine pour...
Oui, bien sûr, c'est la position des valeurs qui se pose. Et effectivement, il y a une aristocratie chez Aristote, il y a une aristocratie des prudents, à la façon dont il y a une aristocratie du goût chez David Hume. Je crois que les deux modèles ici sont à comprendre de la même façon. D'ailleurs, la question de la beauté, cette évidence sans vérité, me semble, et son traitement par Hume ou par Kant au XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette façon qu'ont Hume et Kant de faire droit au fait que la beauté ne relève pas d'une vérité, mais peut néanmoins faire l'objet d'une norme, cette façon qu'ont Hume et Kant de traiter la question de la beauté éclaire, je crois, la façon dont Aristote lui-même pense la question de la prudence, puisqu'il s'agit, dans le cas de la beauté, puisqu'il n'y a pas de normes absolues, et qu'en même temps on ne peut pas considérer que toutes les opinions se valent, d'élaborer une sorte d'aristocratie, une aristocratie du goût, dira David Hume, et dans le cas de la prudence, de repérer parmi les prudents, que nous sommes tous en un sens, que nous sommes condamnés à être, ceux qui véritablement font preuve de prudence, savent au fond faire leur deuil d'une vérité absolue en matière de rapports humains. La question que se pose Aristote, c'est, au fond, il part du problème suivant. Comment appliquer les principes de la moralité à ce que Aubinck, dans son très beau livre sur la prudence chez Aristote, appelle la variabilité indéfinie des circonstances sur lesquelles une action doit s'exercer. Le point de départ d'Aristote, c'est le hiatus entre une morale rigide, une moralité rigide, et la mobilité fuyante, indécise, des actes multiples, disparates, engagés tous et chacun d'ailleurs dans les variables circonstances qui forment la trame de notre vie. Et de ce point de vue, Aubinck va jusqu'à présenter la prudence comme un intermédiaire obligé entre la fin et les moyens, entre les intentions morales et les actions morales. On va vers l'idéal, peut-être, mais il faut comprendre le réel, c'est la phrase de Jaurès. En fait, le problème pour Aristote, c'est celui de la connaissance du singulier. Comment est-ce qu'on peut connaître quelque chose dans sa singularité, c'est-à-dire comment connaître quelque chose sans en faire le cas particulier d'une loi plus générale ? Dans un dialogue, par exemple, vous discutez avec quelqu'un et votre interlocuteur est de mauvaise foi. Alors vous dites un truc et un truc qui lui déplaît. Vous lui faites une objection forte. Plutôt que d'intégrer cette objection, plutôt que de la faire sienne ou plutôt que de l'assumer et d'essayer d'y répondre, si votre interlocuteur est de mauvaise foi, il dira « Oh oui, mais ça c'est l'objection traditionnelle que font tous les marxistes ou bien tous les sociodémocrates ou bien tous les ci, tous les ça. » Bref, il indexera votre propos sur une position générale, sur une théorie générale, c'est-à-dire qu'il méconnaîtra ce qu'il y a de singulier dans la proposition ou dans l'objection que vous lui faites. Il s'intéressera d'abord à la façon dont ce que vous dites s'inscrit dans un courant de pensée dans lequel il veut vous inscrire pour discréditer a priori la parole dont l'examen lui poserait à lui des problèmes insolubles. Vous voyez ce que je veux dire ? L'enjeu, c'est la connaissance du singulier. Comment connaître le singulier, c'est-à-dire comment connaître quelque chose sans le noyer dans l'ensemble conceptuel et déterminant à l'intérieur duquel cette chose viendrait trouver sa place au titre d'un cas particulier.
Excusez-moi, mais j'ai un peu perdu le fil par rapport à la prudence.
Mais c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que la prudence ? La prudence est une action immanente, c'est une action immédiate. C'est-à-dire que le même homme, parce qu'il est prudent, peut un jour considérer que dire ceci est pertinent et le lendemain considérer que, au vu des circonstances, dire ceci n'a aucun sens. Une histoire drôle, Paola, peut tomber à plat, comme elle peut déclencher l'hilarité. Tout est une question d'occasion, de kairos. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses au bon moment. Il faut avoir l'intuition du moment où l'on dit les choses. La prudence et ce sens du moment, c'est cette façon de prendre acte du moment. Une chose, une déclaration, une vérité, entre guillemets, n'est pas séparable des conditions de son émergence ou des conditions de son énonciation. Elle n'est pas séparable. Et c'est se méprendre que de croire qu'elle est séparable, comme c'est se méprendre que de vouloir tenir ou inscrire une parole dans un ensemble plus général, au lieu de faire droit à la singularité irréductible d'une parole, qui est l'émanation du rapport que j'entretiens aux circonstances qui me sont données ici et maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, vous allez me dire si j'ai compris ou pas, mais vous avez cité Jaurès. Est-ce que justement, ce n'est pas la différence entre Jaurès et Chamberlain, cette question de prudence ?
Vous voulez dire Chamberlain au sens où il a signé les accords de Munich ?
Oui, et je veux dire, les deux étaient pour la paix, Jaurès en son temps, Chamberlain en son temps, mais le kairos n'était pas le même.
C'est un excellent exemple. Jaurès est celui qui, au péril de sa vie, a eu, et du point de vue aristotélicien, je revendique ici l'expression, la prudence, c'est-à-dire le courage inouï, de s'opposer à ce qui lui semblait la promesse d'un carnage. Considérant qu'il était beaucoup plus dangereux de souscrire à ce carnage et de verser dans les passions folles ou les intérêts financiers qui le dictent ou qui en dictaient l'avènement ou l'arrivée, il était beaucoup plus dangereux d'y céder que de s'y opposer, au fond. C'est celui qui, compte tenu des circonstances... Alors, Jaurès est hostile à la guerre, mais il n'est pas hostile à la guerre parce qu'il est hostile à la guerre, si vous voulez. Ça n'est pas un pacifisme absolu. Je veux dire ici quelque chose dont je suis absolument convaincu et qu'on pourra contester. Je pense que Jaurès n'aurait jamais été munichois. Voilà. Je pense que le même homme qui s'est opposé au péril de sa vie au déclenchement de la guerre de 14 n'aurait pas signé les accords de Munich. Tout simplement parce que la prudence qui commande en 14 de s'opposer de toutes ses forces, autant que possible, de toutes les petites forces d'un seul individu, si éloquent soit-il, à l'arrivée d'un carnage, la prudence qui dicte ce comportement-là est également ce qui dicterait le sentiment que si on signe les accords de Munich en 38, non seulement on ne calme pas les velléités belliqueuses d'Hitler, mais on lui montre qu'en réalité, on va lui laisser le champ libre, ce qui est exactement ce qu'ont fait Chamberlain, Daladier, etc. C'est-à-dire les signataires de l'accord de Munich. La prudence, c'est pas la lâcheté. La prudence, c'est pas la lâcheté. Pour prendre d'autres exemples, quand le général de Gaulle, à la tête d'une armée de 5000 hommes, et encore, décide que la vraie France ne s'est pas soumise à l'Allemagne et que ça n'est pas le maréchal Pétain qui est fondé à l'incarner, le calcul des circonstances, au fond, et la délibération qui est la sienne, lui fait adopter la position qui lui semble la meilleure. Alors, on pourrait considérer que c'est le caractère du général de Gaulle. Oui, c'est le caractère du général de Gaulle qui fait qu'il s'oppose, mais ce n'est pas un principe. C'est une question de caractère, pas une question de principe. Tous ces hommes-là, Périclès, De Gaulle, Jaurès, ne se donnent pas des principes plus forts que leur caractère.
Chamfort, évidemment.
Oui, c'est la phrase de Chamfort, ne pas se donner de principes plus forts que son caractère. Phrase que Camus aimait tellement. Et d'ailleurs, voyez à quel point se donner des principes plus forts que son caractère, c'est vouloir justement recouvrir le monde d'un filtre absolu et absolument vrai qui, en définitive, nous dispenserait de réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire nous dispenserait d'être prudents. La prudence ne consiste donc pas, au contraire, à se donner des principes plus forts que son caractère, mais à avoir du caractère et à prendre la bonne décision compte tenu des circonstances, c'est-à-dire à faire le mieux de ce que les circonstances ont fait de nous. Le général de Gaulle, s'opposant au maréchal Pétain comme à l'Allemagne nazie, le général de Gaulle agit ici à cet instant en homme prudent, auquel d'ailleurs l'histoire rend raison. Le maréchal Pétain agit en lâche. Ça n'est pas du tout le même geste, parce qu'il est tout simplement plus dangereux. L'état des forces en présence, la situation géopolitique, la position de l'Allemagne, les discours qui portent l'Allemagne à agir comme elle agit au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, tout cela montre que être prudent à cet instant, c'est s'y opposer. C'est s'y opposer, alors que c'est être lâche que de ne pas s'y opposer. Tout simplement. Donc, prudence et lâcheté n'ont rien à voir. La prudence a plus à voir avec le courage qu'avec la lâcheté, c'est-à-dire avec le courage de chercher à chaque instant la norme de son action, qu'avec la lâcheté qui consiste en toutes circonstances à faire le calcul de son intérêt et à essayer d'éviter les coups autant que possible. La prudence n'est pas là. La prudence n'est pas dans le fait d'éviter ses coups. Ça, c'est la pusillanimité. C'est la lâcheté. La prudence est dans le fait d'adapter son comportement à une situation donnée. C'est tout à fait différent.
Et c'est en cela aussi que la prudence n'est pas l'habileté.
C'est en cela qu'on peut dire que la prudence n'est pas l'habileté, même si la prudence a besoin d'habileté, puisque cette connaissance du singulier, cette action droite, ce discours droit, orthos logos, cette conception droite, en quoi consiste la prudence, repose constamment sur le hiatus qui ne peut pas être comblé entre, non pas le monde comme il est, le monde comme il doit être, mais le monde astral et le monde terrestre. Nous sommes engagés, Paola, nous sommes embarqués, comme dirait l'autre. Et cet engagement, cet embarquement dans la vie, est un embarquement que l'intelligence humaine ne parvient jamais à éclairer complètement. Alors, on se pose la question, Aubin se pose la question. La prudence, dit-il, est-elle une forme de connaissance? Non, si par connaissance, on entend une sagesse qui viendrait dire la vérité des phénomènes, parce que les phénomènes ne s'y prêtent pas. Ou alors, si vous voulez, à ce moment-là, ce serait une sorte de connaissance dégradée. Genre, on est un peu moins savant quand on est prudent que quand on est absolument sage. Mais au fond, c'est la même chose. Disons que la prudence, ce serait une modalité immanente de l'intellectualisme socratique qui voudrait que quand on connaît le bien, on fait le bien. Et qu'au fond, c'est involontairement qu'on fait le mal parce que c'est l'ignorance de cause qui nous fait agir dans le mal. Enfin, qui nous fait agir de façon mauvaise. La prudence n'est pas une sagesse en ce sens-là. Parce que on ne peut parler de la prudence sans se demander pourquoi l'homme a à être prudent en ce monde, c'est-à-dire prudent plutôt que sage ou simplement vertueux. Oui.
J'aimerais juste souligner un parallèle que vous avez suggéré tout à l'heure, Raphaël, et sur lequel j'aimerais qu'on ait le temps de revenir lorsque vous avez parlé de l'aristocratie du goût pour Hume et de la beauté chez Kant. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, à sa façon, le prudent d'Aristote est un peu comme le génie de Kant, dans la mesure où il est à lui-même sa propre norme et qui crée ses propres règles.
Alors, vous vous souvenez de la définition que donne Kant du génie, hein, c'est la disposition innée du caractère par le truchement de laquelle la nature donne ses règles à l'art. Le génie, pensant le génie de cette façon-là, Kant permet d'affranchir l'art de toute histoire de l'art. Puisqu'il montre qu'au fond, les artistes ne sont que secondairement tributaires des découvertes techniques ou bien de leurs prédécesseurs, des leçons du passé. Tout à fait secondairement. En vérité, chaque artiste qui apparaît est un cataclysme géologique, est une façon complètement neuve d'entendre les leçons de la nature. Le génie est là. Le génie est dans cette façon totalement inédite à chaque artiste et reprise à grands frais en fonction de la complexion propre de chaque artiste, d'entendre les injonctions tacites de l'évidence naturelle. Le génie, il est dans cette capacité d'interpréter. Et on peut considérer que, de ce point de vue, le politique qui sent ce qu'il doit faire à tel moment, qui a une espèce de vista, qui sent à quel moment il doit enfoncer un clou, dire quelque chose, qui arrive au bon moment pour donner, par exemple, à sa parole le maximum d'audience, ou bien pour formuler une parole qui soit véritablement et audible et elle-même normative, ce talent-là est effectivement, à mon sens, comparable au talent de l'artiste qui, recevant les leçons de la nature, leur donne sa propre version. Donc, en cela, oui, on peut considérer qu'il y a une sorte de... C'est pas une sagesse, la prudence, mais c'est un génie. Oui, c'est un génie. C'est-à-dire, c'est un mélange d'interprétation et d'originalité. Et ce mélange d'interprétation et d'originalité culmine dans l'examen qu'Aristote propose de la prudence dans la figure des hommes politiques. L'enjeu, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de connaissance du singulier, on pourrait le dire autrement. On pourrait dire connaissance du hasard, ce qui est à peu près aussi difficile à penser que la connaissance du singulier. Connaître le singulier, c'est difficile parce que c'est connaître la chose sans essayer de la ramener à l'intérieur d'un concept. C'est connaître la chose comme telle, dans sa singularité. Il n'y a que Spinoza qui enseigne ça, je crois, véritablement. Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons et aimons Dieu, dit-il. Connaître le hasard, c'est entreprendre de connaître quelque chose sans tenter de résorber l'aléatoire irréductible qui la compose, ou un événement sans tenter d'en résorber les contingences qui en déterminent l'arrivée. L'enjeu, c'est d'élaborer une sagesse humaine. Cet enjeu-là, on le trouve chez Camus. Qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doit pas pourrir ? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux-semblant. Ce sont les problèmes de la tragédie grecque. C'est l'ambition kantienne. Qu'est-il permis à l'homme de connaître ? Que faire dans un monde où règne le hasard ? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un avenir qui nous est caché ? Comment rester homme que nous sommes dans les limites de l'homme ?
Est-ce que ce n'est pas aussi la citation que Camus utilise lui-même de Pindare dans la troisième pythique de Pindare lorsqu'il dit «
Épuise le champ du possible ».«
Oh, mon âme n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible ».
Oui et non, c'est-à-dire que oui et non. Camus le dit en épigraphe du mythe de Sisyphe, dans l'épigraphe du mythe de Sisyphe, pour montrer que, en définitive, comme dirait Shakespeare, il y a plus de choses en ce monde, sur Terre, que dans toute philosophie et que dans tout calcul de l'au-delà, qu'au fond, la réalité, c'est-à-dire celle à laquelle la sensibilité nous donne accès, est plus vaste que l'au-delà auquel l'imagination prétend frayer la voie, l'accès. Il le dit en ce sens, et il le dit également au sens où il a soif du monde auquel il est rendu. Mais on est ici dans une perspective de jubilation tragique, au fond, qui pour le coup n'est pas exactement celle d'Aristote, puisqu'Aristote n'a pas renoncé, lui, du point de vue du sage, à une existence, c'est le livre 10 de l'éthique à Nicomaque, à une existence strictement contemplative, en définitive. Ou, disons, il n'a pas renoncé à tenir la contemplation pour le sommet de l'action, ce qui n'est pas tout à fait, pour le coup, la perspective ouverte par Camus. Mais, en revanche, Camus, Aristote, ou Kant avec la question de l'art, ont en partage, alors là pour le coup, l'ambition si noble de ne pas séparer la prudence du prudent, du phronimos. C'est-à-dire de considérer qu'on ne délibère que sur ce qui est contingent alors que la science porte sur le nécessaire. Alors Aristote dit que la prudence n'est pas un art, parce que la prudence vise à l'action et l'art à la production. Bon, il fait cette distinction, mais ça ne change rien au problème. La prudence reste une vertu. Alors que la vertu morale, c'est une disposition pratique qui concerne le choix, la prudence, c'est une disposition pratique qui concerne la règle du choix. Au fond, c'est la justesse du critère, l'enjeu. Que voulez-vous ? Du point de vue d'un grec, l'homme dispose de deux attitudes fondamentales. Le savoir, qui porte sur le nécessaire, et le faire, qui s'occupe du contingent. Et entre ces deux déterminations, qu'est-ce qu'on a ? Le savoir-faire. C'est-à-dire la prudence. Je parlais tout à l'heure du savoir-faire d'un charpentier ou bien d'un cocher qui s'oppose au savoir du mathématicien. Il vaut mieux se fier à l'avis de son cocher qu'aux règles de la mathématique qui nous montrent que le fiacre peut passer par le chemin de falaise qu'il se propose d'emprunter. Il vaut mieux se fier à l'instinct du cocher qui lui-même s'en tient à l'instinct du cheval. C'est un savoir-faire et non un savoir ni un faire.
Que la prudence ne soit pas science, c'est là une chose manifeste. Elle porte en effet sur ce qu'il y a de plus particulier, comme nous l'avons dit, car l'action à accomplir est elle-même particulière. La prudence, dès lors, s'oppose à la raison intuitive. La raison intuitive, en effet, appréhende les définitions pour lesquelles on ne peut donner aucune raison. Tandis que la prudence est la connaissance de ce qu'il y a de plus individuel, lequel n'est pas objet de science, mais de perception.
J'aimerais confronter juste le texte d'Aristote qu'on vient d'entendre à quelques lignes qui viennent, cette fois, de l'essai de Aubinck.
La prudence chez Aristote, donc
voilà,
oui.
Et c'est avoir du jugement, ce n'est pas le jugement, je précise, dans le sens du jugement que doit avoir le prudent. Avoir du jugement, ce n'est pas subsumer le particulier sous l'universel, le sensible sous l'intelligible. C'est sensible et singulier soi-même, pénétrer d'une raison plus raisonnable que rationnelle le sensible et le singulier. C'est, vivant dans un monde imprécis, ne pas chercher à lui imposer la justice trop radicale des nombres. Mortel, ne pas juger les choses mortelles à l'aune de l'immortel. Homme, avoir des pensées humaines.
C'est magnifique. On ne peut pas mieux dire. Hein. C'est vraiment un essai remarquable. Hein. La prudence chez Aristote, d'Aubinck. On connaît, de Pierre Aubinck, le problème de l'être chez Aristote. On connaît. Mais on va se calmer. Hein. Les cagneux connaissent le problème de l'être chez Aristote
et les
agrégatifs. Et encore, pas tous. Mais on connaît moins ce texte sur la prudence chez Aristote, disponible en quadrige. Et vraiment très beau. Je le dis d'ailleurs à nos auditeurs, parce que c'est un texte qui a une apparence doxographie assez peu distrayante. Quoi, hein. On sent que c'est un texte pour les étudiants. Mais alors, il y a dedans des formules, des bonheurs de formules et une façon de résumer une pensée que je trouve absolument admirable. Donc, faites cet effort, chers auditeurs, procurez-vous la prudence chez Aristote de Pierre Aubinck comme une voie d'accès, mais alors royale, au livre 6 de l'éthique à Nicomaque et au chapitre plus spécifiquement consacré à la prudence, à la question de la prudence. Parce que le prudent, c'est pas celui qui sait. Et ça n'est pas non plus l'ignorant qui légifère, c'est pas le philosophe roi qui possède le savoir, si vous voulez, hein. Le prudent. Ça n'est pas celui qui, ayant contemplé la vérité dans sa transcendance, y puise ensuite la norme de son action. Le prudent n'est pas théonome, il ne va pas chercher la loi en Dieu. Et dans le même temps, il n'est pas non plus relativiste, c'est-à-dire que le prudent ne dira pas que l'homme est la mesure de toute chose, phrase de Protagoras, et il ne dira pas non plus que Dieu est la mesure de toute chose, phrase de Platon qui l'oppose au relativisme protagoréen. Pour le prudent, ça n'est ni Dieu qui est la mesure de toute chose, ni l'homme qui est la mesure de toute chose, dans un cas, si vous voulez, dans un savoir absolu, et dans l'autre, dans un savoir absolument relatif. En vérité, ce que dit Aristote en résumant la prudence à l'homme prudent, au comportement de l'homme prudent, en rappelant à la prudence sa source incarné, Aristote fait valoir une aristocratie de la prudence, qui renvoie d'ailleurs à ce que Nietzsche peut dire du fort d'ailleurs. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le problème de la fondation d'un jugement. Il n'y a pas de vérité absolue sur lesquelles on peut s'appuyer pour fonder un jugement. Il n'y a pas de loi absolue, il n'y a pas de vérité absolue. Bon. Est-ce à dire que chacun est la source de sa propre action ? Non plus. Oui et non. Oui, parce que chacun agit comme il peut. Non, parce que s'il n'est pas de vérités absolues, il est en revanche des comportements auxquels on peut se référer pour agir correctement. Et c'est en cela qu'aux yeux d'Aristote, le prudent, l'homme prudent, est à lui-même son propre critère. Là encore, on est dans l'évidence sans vérité. La prudence ne se définit par rapport à rien. Il n'y a pas de concept de prudence auquel on pourrait accoler ensuite tel ou tel cas particulier. Non, ça se passe différemment. C'est le contraire, en fait. La prudence n'a pas d'essence, elle n'a que des incarnations qui nous semblent évidemment l'expression de la prudence après coup. C'est toute la différence, d'ailleurs, que pointe Aubinck entre Platon et Aristote. Pour Platon, l'homme de bien, le bon gouvernant, par exemple, est celui qui a les yeux fixés sur le bien. Or, dit Aubinck, pour Aristote, c'est nous, pauvres hères ou pauvres errants, qui avons les yeux fixés sur l'homme de bien. En fait, on est descendu d'un cran. Mais cette redescente-là est un progrès. C'est un progrès dans la pensée, c'est un progrès dans le processus qui consiste, pour la philosophie, à penser la réalité du praticable, et non le monde idéal dont on peut regretter l'absence à chaque instant. C'est un progrès parce que... Alors, c'est un progrès en ce sens, et c'est un progrès qui prend la forme d'une sorte de retour à l'idéal archaïque du héros, du spoudaios, c'est-à-dire celui qui s'impose moins par son savoir que par ses exploits. C'est l'homme qui est à lui-même la mesure de sa valeur. C'est ce qu'on appelle le valeureux. Et c'est celui en qui, aux yeux d'Aristote, la volonté est moins éclairée que éclairante. Alors, il dit ça. Le valeureux juge de chaque chose droitement, et en chaque chose, c'est le vrai qui lui apparaît. Et sans doute, le valeureux se distingue-t-il principalement en ce qu'il voit le vrai en toute chose comme s'il en était la règle et la mesure. Il dit comme si auspère, c'est le mot grec pour dire comme s'il en était la règle et la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que de la même façon que Hume élabore une norme du goût à partir de la relativité des goûts, genre des goûts et des couleurs, on ne discute pas, oui d'accord, mais enfin, que voulez-vous, Homer, c'est quand même pas Guy Descartes. Bon, cette concession à la normativité du goût par Hume permet de comprendre la façon qu'a Aristote, l'ambition aristotélicienne, de récuser les vérités absolues comme normes de notre action, la théonomie de ces vérités absolues, au profit non pas du relativisme, car tous les hommes comme toutes les opinions ne se valent pas, mais au profit des hommes de valeur qui, par leur action, sont juges de la valeur elle-même. Périclès, Pythagore, Parménide, Anaxagore. Alors, non, en vérité, Pythagore, Parménide, Anaxagore sont présentés par Aristote comme des sages. Périclès est présenté comme un prudent. Parce que Périclès, à la différence de ses sages, est ce qu'on appelle un homme mesure. Il est invoqué pour l'excellence de son exemple et pour la rectitude de son jugement. C'est un homme dont la qualité intellectuelle est d'abord une bravoure. Aristote récuse la subordination de la vertu à la science. Mais dans le même temps, il n'abjure pas le raisonnement. Il adhère à l'idée d'une règle droite, d'une règle conforme, mais c'est une règle qui est toujours individualisée, incarnée, personnalisée dans la personne du prudent. La prudence a un fondement existentiel. Il n'y a pas de prudence sans prudent, mais dans le même temps, on ne serait pas prudent si on n'avait pas la prudence. Et on retrouve ce génie propre d'Aristote, qui est d'être de l'aristotélisme, si j'ose dire, qui est d'être une pensée du caractère. C'est-à-dire de nous débarrasser de la question de l'essence en matière humaine pour penser le fait qu'on ne forgerait pas si on n'était pas forgeron et on ne serait pas forgeron si on ne forgeait pas. C'est-à-dire pour penser pleinement le fait que ici-bas, nous sommes en permanence pris dans la dialectique de l'œuf et de la poule et c'est cette dialectique qui fait que la prudence produit le prudent, mais le prudent élabore les normes toujours à renouveler de la prudence, c'est cette dialectique qui fonde la question de la prudence, qui lui permet d'échapper au relativisme comme au savoir absolu, qui lui permet tout simplement de construire, par cet aristocratisme aristotélicien qui s'oppose à l'intellectualisme platonicien, de construire la meilleure façon de penser, d'envisager l'activité humaine.
Raphaël, merci à vous, auditeurs prudents, merci François, merci Pierre, merci Alice. Prudence, montre-moi ton sourire, c'est sur la chanson des Beatles que nous terminons cette émission, qui, nous l'espérons de tout cœur, vous aura donné envie d'ouvrir le livre 6 de l'éthique à Nicomaque, ou du moins, provisoirement, l'admirable essai de Pierre Aubinck. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La démocratie en Amérique, où il sera question des foules, car il y en a des bonnes et des mauvaises. En attendant, soyez nombreux à vous rendre sur le site de Raphaël Antoven sur France Culture, où sont désormais à votre disposition bienveillante une foule d'émissions enregistrées depuis le commencement des nouveaux chemins de la connaissance. Vous pouvez aussi cultiver votre goût pour la philosophie en vous procurant le dernier numéro de Philomag, qui consacre ce mois-ci un dossier à l'autre et à Étienne de la Boétie. Retrouvez aussi les nouveaux chemins de la connaissance de 10h à 11h sur France Culture avec Adèle Vendrette. À 17h sur France Culture, l'Atelier du Pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.